les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un auteur dramatique, comédien, metteur en scène, très conscient que ses personnages doivent entrer dans son œuvre en état de crise. Écrivain belge, mais né à Paris, à Montmartre précisément, en 1886, qui mourra à Saint-Germain-en-Laye en 1970, écrivain belge qui se considérait français et n'allait jamais demander la nationalité française, passant de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, toute sa vie. Personnage en état de crise, donc. Il faut dire que le monde est cruel, que ce soit dans Les Amants puérils ou dans Le Cocu magnifique. Des personnages qui réfléchissent peut-être moins qu'ils ne sont entraînés. Un théâtre du paroxysme, un théâtre de l'absurde, déjà. Un théâtre où tout était représenté poétiquement et symboliquement. Hommage à Fernand Crommelinck par Marie-Hélène Baconnet, première diffusion sur France Culture le 8 mars 1981.
Les Amants puérils, acte premier. C'est le salon commun à la villa des Tritons, devant la mer. Par l'immense baie vitrée, on ne voit que le gouffre d'air éblouissant et froid. Des housses ou des rideaux de toile blanche recouvrent tous les meubles, tous les tableaux, les vitrines, la pendule, le tapis. Seuls sont nus les miroirs gelés et le lustre de Venise, pareil à un buisson de givre. Marie-Henriette est debout contre le ciel face à l'abîme. Elle n'entend pas entrer les servantes. Voici Zulma, toute chaude d'une joie qui tend sa bouche fine et ses longs yeux de bête. Voici Fideline, toujours blême d'envie. Elle parle à voix basse, rapidement, confusément.
Les amants puérils, c'est le suicide de deux enfants à Ostende au début du siècle qui donne son titre à l'une des plus belles pièces que la langue française ait produite en ce XXe siècle. Son auteur Fernand Crommelinck est mort depuis 10 ans, exactement en mars 1970. 10 ans déjà, s'exclameront certains, tant l'œuvre de Crommelinck paraît contemporaine, classique. 10 ans seulement s'étendront les autres, car depuis les années 50, il faut bien dire que l'œuvre de Crommelinck avait plus ou moins disparu de la scène, donc de l'actualité et donc de nos mémoires. Pourtant, deux événements récents semblent prouver un intérêt nouveau pour l'œuvre de Fernand Crommelinck. D'abord, la publication par une universitaire belge, Janine Moulin, d'un gros livre, « Fernand Crommelinck ou le théâtre du paroxysme », un livre édité par l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Ce livre donne pour la première fois une idée d'ensemble de ce que furent la vie et l'œuvre de cet homme discret qu'était Crommelinck. Et puis, en octobre 1979, la reprise au Théâtre du Parc à Bruxelles dans une mise en scène d'Henri Ronce des Amants puérils.
À un moment donné, j'ai refusé, rejeté, je n'ai plus supporté le pays dans lequel j'étais né, qui est la Belgique. Je suis né en Belgique, je suis né à Bruxelles. Et à un moment donné, j'ai quitté ce pays, à 19 ans et demi, pour venir à Paris. Et à mesure que je m'en éloignais, et cette rupture a eu quelque chose de vraiment définitif, parce que j'ai gardé des amis en Belgique, mais j'y suis vraiment très peu revenu pendant plusieurs années, à travers cet éloignement et cette rupture, j'ai découvert peu à peu que derrière le visage que je ne supportais pas de la Belgique, qui est un pays profondément, je dirais embourgeoisé, au sens où Baudelaire parlait du bourgeois, c'est vraiment un pays lourd, étouffant, pesant, où toute une bourgeoisie d'argent est extrêmement présente et certainement plus offusquante, plus voyante qu'elle ne l'est encore dans une ville comme Paris, par exemple. Et j'ai découvert que peu à peu, si vous voulez, ça c'est vraiment une chose qui s'est révélée à moi, comme ça, comme si on levait un voile après l'autre. Il y avait derrière tout ce que je rejetais un monde de sensibilité, des images qui m'avaient frappé quand j'étais enfant, tout un climat à la fois physique et mental auquel j'étais attaché plus qu'à tout et dont je ne pourrais jamais me défaire. Et ce climat, il est incarné dans quelques œuvres, dans les tableaux de Spilliard, dans certains tableaux d'Ansor, dans certains tableaux de Magritte ou de Delvaux. Il est aussi incarné dans certaines œuvres littéraires. Il est incarné dans la position spirituelle, par exemple, qui était celle d'un homme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était un peu mon initiateur, si vous voulez, qui est Marcel Lecomte. Donc à la Belgique réelle, que j'avais connue et rejetée, est venue se superposer une Belgique imaginaire, et pourtant bien réelle elle aussi, à laquelle je me suis attaché. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à monter des œuvres d'auteurs belges. C'est comme ça que j'ai monté Les Aveugles de Maeterlinck. Puis après j'ai monté Péléas et Mélisande au Théâtre National à Bruxelles. Après cela j'ai monté Les Miroirs d'Ostende de Paul Willems. Et ensuite, Les Amants puérils de Crommelinck. Et je vais continuer ce travail en montant La Ville à voile de Paul Willems l'année prochaine. Et en essayant, au fond, d'approfondir, si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, ce qui fait le milieu sensuel et rêvé de cette sensibilité belge.
Les Amants puérils furent créés en mars 1921, 3 mois après Le Cocu magnifique, qui reste le plus grand succès de Ferdinand Crommelinck et qui a connu jusqu'à ce jour plus de 50 000 représentations à travers le monde entier. Mais les autres pièces de Ferdinand Crommelinck ont également connu de grands succès, surtout avant la dernière guerre mondiale, puisqu'elles furent créées donc entre 1920, date du Cocu magnifique, et 1934. Karine, la jeune fille folle de son âme, Chaud et froid ou l'idée de Monsieur d'homme, Une femme quelque heure trop petit, ou encore Trip d'or.
Très souvent, je pense que dans l'image du public, Crommelinck, c'est d'abord Le Cocu magnifique, qui est une très belle pièce.
Henri Ronce.
Mais qui, au fond, est une pièce de structure, de composition beaucoup plus traditionnelle. Plus proche d'une tradition qui est une tradition moliéresque, au fond, qui est la tradition du type ou du caractère. La pièce est donc une sorte de coup de projecteur centré entièrement sur le personnage du Cocu. Or, il me semble que toute la richesse du théâtre moderne, du théâtre contemporain, depuis Strindberg, parce que c'est au fond depuis le songe, depuis l'écriture éclatée du songe et du chemin de Damas, que l'on peut dater ça, toute la recherche du théâtre contemporain est d'arriver à rendre au fond le foisonnement du réel ou des réels et du ou des imaginaires. Et donc de multiplier les intrigues parallèles. C'est le cas chez Strindberg dans les dernières pièces, c'est le cas chez Tchekhov aussi, c'est le cas d'une manière extraordinaire dans cette pièce qui est écrite en 1912, que sont Les Amants puérils. Quand on pense à ce qu'était le théâtre en 1912, je crois que vraiment on n'a jamais assez insisté sur l'extraordinaire nouveauté de l'écriture de Crommelinck. Parce qu'en fait, dans Les Amants puérils, Crommelinck conduit de pair, et avec leur langage à chacune, il conduit de pair 3 ou 4 intrigues. Il y a d'une part les amants puérils, c'est-à-dire ce qui donne l'aventure, le suicide, ce suicide d'enfant, d'adolescent, qui donne son titre à la pièce, et qui pourrait à soi seul être le sujet d'une pièce. Il y a une deuxième intrigue qui est l'aventure de cette femme mystérieuse et voilée, de cette femme vieillissante qui ne vit plus que les alentours de la passion, qui est l'étrangère, et la quête passionnée, impossible, de l'homme encore jeune qui la poursuit de sa passion dans cette villa au bord de la mer du Nord, sans doute à Ostende. Là aussi, ça pourrait être le sujet d'une pièce de Pinter ou d'Albi, par exemple. Et puis, il y a une troisième intrigue qui est menée admirablement par Crommelinck et qui, elle aussi, pourrait faire la matière d'une pièce un peu balzacienne, qui est l'histoire du baron Cazou. cette espèce de vieux tas d'ossements, comme ça, qui vit reclus dans cette pension de famille depuis des années, ressassant ses souvenirs. On ne sait pas s'il est gâteux ou méchant ou fou, une sorte de roi lyre, comme ça, dérisoire, qui a lui aussi son langage et son univers. Et puis à cela, à ces trois intrigues que je viens de dire, vient se superposer une quatrième qui est la vie de cette pension de famille au début de la saison à Ostende, avec cette présence du cœur des servantes maléfiques au fond qui ont leur langage et qui représentent tout un monde, tout un univers. Il y a donc là quatre univers qui se croisent, qui se superposent, qui s'imbriquent. Et c'est vraiment construit d'une manière extraordinaire, enfin comme une fugue. Et je crois que rarement on a vu un tel chef-d'œuvre de construction dramatique, sauf peut-être dans certaines pièces de Tchekhov ou dans Le Songe de Strindberg. Et je crois que c'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent et qu'on n'a pas assez souvent remarqué dans l'œuvre de Crommelin, ou quand on parle de Crommelin. Je pense que c'est aussi pour ça que Les Amants puérils, en dehors même du thème qui est bouleversant et d'une cruauté et d'une tendresse totalement implacable, je crois que c'est aussi ça un des grands intérêts pour nous aujourd'hui de cette pièce.
1956, Les Amants puérils au Théâtre Montansier, dans une mise en scène de Tania Balachova qui interprète également le rôle d'Elisabeth, l'étrangère.
Tu es bien jolie, mademoiselle. Tu n'es pas craintive, quel âge as-tu? Tu es la petite fille de Madame Mercenier, comment te nomme-t-on?
Marie-Henriette et vous?
Moi, Elisabeth.
Elisabeth.
Quel âge as-tu? Tu es si jolie. Tu as encore les jupes courtes. Quel âge?
J'ai 14 ans.
14 ans, 14 ans, tu as 14 ans. Quel bonheur. Tu ne pleures jamais?
Oh, l'année dernière, je pleurais souvent. Mon père me battait.
14 ans.
Moins de mois.
C'est vrai, tu as encore les jupes courtes. Tes yeux sont bleus. Donne-moi la main.
Pourquoi?
Ta main est douce comme un gant. Non, tes yeux ne sont pas bleus, ils sont mauves. Tu es si jolie.
Oh, vous êtes plus jolie que moi.
Enfant, enfant. Tu joues toujours à la poupée?
L'année dernière, j'avais encore la petite japonaise. Elle était là, mais j'en avais pitié. Quand j'étais triste, je m'endormais toujours avec elle. Depuis qu'elle a pris le deuil de mon père, je n'ose plus la regarder. Peut-être qu'elle n'ouvre plus les yeux.
On pourrait dire que la principale intrigue de cette pièce est celle qui n'a pas lieu, c'est-à-dire qu'on attend, par exemple, la rencontre ultime de la princesse, enfin de l'étrangère, la femme voilée, et de Kazou, dont on apprend qu'ils ont vécu longuement ensemble une grande passion.
Elle a lieu devant nous, elle est d'ailleurs effrayante.
Oui, mais ils ne se parlent plus, enfin je veux dire, c'est très bref, on ne revient jamais en arrière.
Oui, je crois qu'il y a une chose qui appartient très profondément à la sensibilité de ce pays imaginaire qu'on va continuer à appeler la Belgique, c'est que regardez les tableaux de Delvaux, regardez les tableaux de Magritte, regardez certains tableaux de Spiliart, regardez les tableaux de Knopf, vous voyez des êtres qui se croisent sans se rencontrer. Et je crois que ça, c'est vraiment un des traits dominants de ce pays. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un pays où les êtres se croisent comme s'ils étaient absorbés dans une sorte de rêve intérieur. Et c'est cette sorte de rencontres qui ont lieu sans avoir lieu, qui font un peu tout le climat de la pièce de Crommelin. Et je crois que c'est pour ça que c'est peut-être sa pièce la plus profondément accordée à la sensibilité belge, beaucoup plus que l'effervescence lyrique du Cocu Magnifique.
Oui, parce qu'effectivement, cette rencontre entre Kazou et la princesse a lieu comme un choc, et aussitôt chacun s'écarte et va vivre, chacun de son côté.
On ne sait pas si ces rencontres-là ont lieu dans le réel. Évidemment, elles ont lieu dans le réel. Mais en même temps, au moment même où elles ont lieu dans le réel, elles sont comme projetées dans l'imaginaire. Et je crois que ça, ce sentiment d'un réel qui se mue là, devant nous, à la seconde, en imaginaire, c'est un trait très marquant de la sensibilité de la Belgique dans le domaine de la peinture ou du théâtre, aussi bien à travers ce qu'on a appelé le symbolisme qu'à travers le surréalisme.
Et c'est un imaginaire tragique de toute façon.
C'est dans Les Amants puérils un imaginaire totalement tragique. D'ailleurs, c'est, enfin, la pièce est vraiment écrite, construite comme une tragédie. Et je crois que, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a une utilisation du cœur des servantes, par exemple, qui est extraordinaire d'invention scénique et de contrepoint, enfin, qui est vraiment une manière de retrouver la fonction ancienne du cœur tragique.
1956, Les Amants puérils, mise en scène Tania Balachova, le baron Cazou est joué par Daniel-Émile Forck.
Regardez là-bas au bout de la rue. Voilà le vieux Cazou avec sa suite. Le vieux Cazou avec sa cour. Il vient ici chaque matin rôder. Il est tout à fait détruit maintenant. C'est la sauce qui tient les morceaux.
Les gens se battaient dernièrement sous sa fenêtre pour ramasser des pièces d'or qu'il se met.
Des pièces d'or, Jésus-Maria.
Je ne le croirais pas si je l'avais vu, mais on me l'a raconté.
Depuis, il est toujours suivi des pires vauriens du port. Il sera étranglé par eux un de ces jours. Et il connaissait l'étrangère, lui?
Oui.
Dimanche, il a arraché un gâteau des mains d'un petit garçon, d'un petit. Ils ont disputé tous les deux comme des hommes. Ils ont fait des grimaces et pleuré l'un devant l'autre. C'était un vrai théâtre sur la digue.
Oui, il arrive à point aujourd'hui. Et s'il me dit qui est cette femme, je lui rendrai son bâton.
Moi, je m'en vais, il me fait peur. Vous me racontez toute l'histoire?
Rendez-moi mon bâton, Fideline.
Entrez, entrez, monsieur Cazou. Reposez-vous.
Il est abandonné de tous, le baron Cazou, le pauvre. Rendez-moi mon bâton, je vous prie. Il est si fatigué, toujours, toujours. Mon lit est peut-être trop dur.
Oh, voyez-le. Ses habits sont couverts de sable et spermie. Vous êtes tombé?
Oui, oui, tombé. C'est le vent sur la digue qui m'a renversé. Il est fort aujourd'hui, le vent.
Ah, pas trop fort, il ne vous a rien cassé.
Là, je suis gentille, dites-le.
Oui, oui, gentille. Mais vous me rendrez mon bâton, celui-là. Pas un autre, Fideline, le mien.
Écoutez-moi.
Non, je paierai à boire au vagabond pour qu'il vienne vous battre. C'est une farce, rendez-le moi, je vous prie. Je vous mettrai sur mon testament, ingrate.
Vous l'aurez aujourd'hui, tout de suite même, si vous me dites qui est cette femme.
Tout de suite, quelle femme?
Élisabeth. Élisabeth, vous savez bien.
C'est un climat poétique. Et très en rapport, précisément, avec la peinture.
Jeannine Moulin, écrivain, auteur de Fernand Crommelin ou Le théâtre du paroxysme, publié à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exposition qui a eu lieu il y a quelques années à Paris, Les peintres de l'imaginaire, où on avait des peintres comme de Gouvedenin, comme Knopf, etc. Donc toute cette poésie qu'on a appelée depuis irréaliste, que ce soit l'irréalisme ou le surréalisme, c'est dans une même veine. C'est un peu cette veine du sommeil et du rêve. Eh bien, au fond, il n'y a pas une pièce qui soit vraiment plus que Les Amants puérils proche de ce genre de peinture. La preuve que c'est une pièce très picturale, très poétique, c'est que plusieurs peintres on fait des décors pour cette pièce. En 56, quand on a repris Les Amants puérils, les décors étaient de Léonore Fini. Et maintenant, vous savez, on a pris des décors inspirés entièrement par Delvaux. Et moi, je trouve que le mariage Delvaux-Crommelin est très réussi, contrairement à ce que certains ont pensé. C'est donc, encore une fois, cette alliance de la peinture belge, flamande, ou comme vous voudrez, avec cette poésie, et l'un et l'autre faisant corps, se fondant très très bien leurs éléments.
Le problème du théâtre, c'est de faire
Henri Ronce
de l'imaginaire avec du réel. C'est ça, sa seule magie et son seul intérêt. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Paul Delvaux pour Les Amants puérils au Théâtre du Parc.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec Paul Delvaux?
J'ai travaillé sans lui, pour une raison simple, c'est qu'il avait beaucoup travaillé avant moi. Je crois qu'il y a deux manières de travailler avec un peintre, où on travaille avec un jeune peintre dont l'œuvre est devant lui, et à ce moment-là, on travaille avec lui tous les jours, ou on travaille avec un peintre dont la plus grande partie de l'œuvre est accomplie, ce qui est le cas de Paul Delvaux, qui a une œuvre considérable de fait, et par conséquent, je suis parti de l'ensemble de l'œuvre de Paul Delvaux. Nous avons donc constitué quatre décors et réalisé une maquette en modèle réduit. Nous avons mis tout cela dans une petite valise, pris le train pour Bruxelles, et nous sommes allés présenter ça à Paul Delvaux. Et je dois dire que sa réaction a été une chose extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier. On a posé cette maquette sur la table, il s'est agenouillé, il a regardé chaque détail comme ça avec une attention, une émotion et une joie enfantine. Et quand il s'est relevé, il nous a dit « Eh bien, c'est extraordinaire parce que j'ai fait des décors de théâtre quelquefois et j'ai toujours été très déçu parce que je remettais un carton et on réalisait une mauvaise réplique d'un de mes tableaux. Et ici, je n'ai pas un de mes tableaux, j'ai quatre états différents d'un tableau que je n'ai jamais peint, mais le climat de tous mes tableaux est présent. »
Quant à la présentation, j'ai été surpris de voir la qualité
Paul Delvaux.
Des costumes, du jeu. La pièce est évidemment très belle, n'est-ce pas? Et je ne vois pas du tout que le décor n'est pas convenu à la pièce, comme on l'a dit dans la presse belge, parce que la presse belge n'a pas été tendre pour cette pièce. Et moi, j'ai trouvé le décor très beau. Ils ont été faits d'après des tableaux à moi, ou des choses ensemble. Ce n'est pas parce que c'est moi que je le dis, mais je trouve que le décor était beau. Et les costumes étaient beaux. Dans l'ensemble, c'était une représentation réussie. À mon avis, j'étais très surpris de la réaction négative de la presse ici. Je ne l'ai jamais comprise.
C'est peut-être Crommelin qui suscite ça, parce que Crommelin, tout au long de sa vie, a toujours eu de très mauvaises critiques. Alors peut-être que c'est le destin qu'il poursuit au-delà de la tombe.
Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu un quiproquo. On croit qu'un décor statique doit nécessairement avoir pour votre décor, comme vous voulez, n'est-ce pas, une pièce statique. C'est pas vrai, n'est-ce pas. Une pièce dynamique comme celle de Crommelin peut très bien avoir lieu dans un décor statique.
Est-ce que vous considérez que vos tableaux sont statiques?
Mais, d'après ce qu'on a dit, c'est ça qu'on a dit en tout cas. Moi, je ne me rends pas compte. C'est ça qu'on a dit, ces piliers avec ces charpentes, n'est-ce pas, qui sont des charpentes de hangar en bois, en fer. Et puis alors, ces lampes, mais cette horloge, moi je trouvais ça, je ne peux pas dire que c'est moi, puisque c'est moi qui les ai faits, si vous voulez.
Vous avez rarement travaillé pour la scène.
J'ai fait un décor en 1947 à Paris, au Théâtre Marigny, pour Adam Miroir, la pièce de Jean Genet. Ça, j'avais fait moi-même, ce décor-là. Et je dois dire que c'est le seul décor que j'ai jamais fait de ma vie qui a jamais été présenté, enfin.
Pourquoi vous n'êtes pas intéressé par le théâtre?
Ben, écoutez, je pense que en général, quand vous faites un décor, c'est qu'on vous le demande. On m'en a jamais demandé, alors j'en ai jamais fait. C'est bien simple.
Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Crommelin et des Amants puérils, puisque vous avez vu la pièce?
C'est un décor assez violent, c'est une pièce terrible, mouvementée, violente, n'est-ce pas? Et moi, j'ai trouvé très belle.
Est-ce que vous avez senti un rapport entre cette pièce et puis la mer du Nord, enfin cette lumière de la mer du Nord que vous connaissez si bien?
Oui, si on veut, mais on voit, mais c'est un rapport très lointain, hein. On voit la mer à un moment donné, dans le troisième décor, il y a une passerelle et puis on voit la mer derrière, mais comme c'est la nuit, on ne la voit pas, elle est perdue, ils s'en vont dans la nuit vers la mer. C'est beau comme idée, mais la mer du Nord, que ce soit la mer du Nord, la Méditerranée, ou bien, je ne sais pas moi, ça n'a pas beaucoup d'importance.
La Méditerranée ne ressemble pas à la mer du Nord, ce n'est pas la même lumière.
Non, mais vous voulez, représentez-vous la mer la nuit. La mer la nuit, comme ça, comme c'était le cas dans la pièce. Que ce soit n'importe quelle mer, la mer c'est la nuit, c'est la mer la nuit, n'est-ce pas? L'eau a la même couleur, c'est le jour qu'il y a une différence. La mer de Méditerranée est bleue, la mer du Nord est grise, est méchante, elle est verte, tout ce qu'on veut. La mer du Méditerranée est bleue, elle est calme, elle est limpide. Mais le soir, pas. Le soir, on voit. Bon, le bruit, peut-être. Peut-être moins de bruit. C'est tout.
Il y a une chose qui sous-tend toute la pièce de Crommelin, c'est l'évidence que la vie est cruelle. Je crois que c'est ça, le centre des Amants puérils. Et je crois que c'est tout ce que nous dit Crommelin dans Les Amants Puérils. Et c'est au fond cette cruauté que les amants ne peuvent supporter. Ces deux adolescents choisissent au fond la mort.
Henri Ronce.
Parce que, d'une part, elle les attire comme une sorte de bonne mère, la mauvaise mère étant Madame Mercenier, qui est là présente, avec toute sa gentillesse, sa bonté, son indifférence, au fond.
Mais
sa frivolité, sa cruauté totalement inconsciente. Donc la mort est choisie par les amants puérils comme une sorte de consolation, de recours ultime, un abandon à quelque chose de doux et de bienheureux. Mais en même temps, à mesure que ce choix et que cette attirance opère, on s'aperçoit que cette mort a lieu aussi, et il y a une phrase qui est extrêmement effrayante à la fin, qui est dite par un voisin, « Ils se sont battus au moment de se noyer, ils ne s'aimaient déjà plus. »
Ils se sont mordus.
Ils ne s'aimaient déjà plus. Et je crois que, au fond, peu de pièces donnent le sentiment d'un tel désespoir, d'une telle cruauté parfaitement lucide. C'est une pièce qui nous laisse vraiment devant un gouffre. C'est une des pièces, de ce point de vue-là, les plus radicales et les plus éprouvantes. Je dois dire que, pour moi, c'est certainement une des pièces que j'ai eu à la fois le plus de joie à répéter et à mettre en scène, parce qu'il y a une telle richesse de langage, un tel bonheur par moment aussi, qui passe entre les êtres, une telle tendresse, par exemple dans les relations entre la petite Marie-Henriette et l'étrangère, et en même temps un désespoir tellement radical, la certitude que tous ces bonheurs, au fond, sont déjà rongés d'avance. Personne dans Les Amants Puérils ne réchappe. Peut-être Madame Mercenier. Mais si c'est réchappé.
27 avril 1956, document RTF.
Monsieur Crommelin, à quel âge avez-vous écrit Les Amants Puérils ?
À 25 ans.
Il me paraît, et c'est la première question que je voulais vous poser, que la pièce est bien amère avec ses problèmes de l'amour, de la vieillesse et de la mort qui se posent dans cette pièce, et que vous étiez bien jeune pour avoir déjà de pareilles idées.
Mais j'imagine, comme je vous l'ai dit déjà, que c'est surtout pendant la jeunesse qu'on est un peu inquiet de la mort et de la précarité de l'amour.
Après, vous considérez que l'optimisme vient en vieillissant.
Je ne sais pas si c'est l'optimisme, enfin une certaine expérience qui vous permet de ne pas désespérer au même point. C'est à 20 ans qu'on se tue, qu'on se suicide par amour. Après ça, mon Dieu, d'ailleurs, on est peut-être lié aussi déjà par certaines obligations que l'amour vous a créées. On est peut-être déjà marié, peut-être père de famille, ce qui était mon cas. Alors, de là peut naître un certain optimisme.
Vous considérez donc que l'optimisme peut venir surtout de la vie et de tout ce qu'elle représente ?
Mais oui, évidemment. L'optimisme, probablement, tient d'abord à la nature de l'individu. Il est certain que, quand j'ai écrit Les Amants Puérils, c'était peut-être déjà à l'époque d'un souvenir, c'est-à-dire de certaines réflexions que je m'étais faites quand j'étais adolescent. J'ai incubé, probablement, et je n'ai réalisé ça que quand j'avais 25 ans, avec le recul.
Est-ce que vous êtes parti d'une expérience réelle, c'est-à-dire de gens qui avaient pu avoir une vie sentimentale autrefois, qui avaient été beaux, jeunes, admirés, et qui étaient devenus des ruines, en quelque sorte?
Oui, en effet. Je remarquais souvent, quand j'allais à Ostende, puisque dans mon esprit, c'est là que le drame se passe, je remarquais souvent la femme de l'ambassadeur d'un pays nordique, qui avait été fort belle et qui me paraissait déjà fort âgée alors qu'elle devait probablement avoir 35 ans.
Quand on est jeune, c'est déjà très vieux.
Alors j'ai imaginé le drame de sa vie. Je la voyais suivie par un jeune garçon qui l'aimait beaucoup. Je n'ai jamais fait la connaissance de cette ambassadrice.
mais en fait, je regardais, j'enregistrais et je me désolais et pour elle et pour lui. D'où est née la pièce uniquement.
Je voudrais bien que nous parlions un peu du couple d'enfants qui a sa place. Parce qu'il n'y a pas que les vieux dans cette histoire.
Oui, mais il y a en réalité dans la composition de cette pièce un certain secret. C'est-à-dire que j'ai voulu faire du théâtre simultané. Ça ne concerne pas le public, il n'a pas à s'occuper de ces choses-là. Mais enfin, puisque vous me demandez comment c'est composé, je vais vous le dire. En réalité, il n'y a que deux personnages. Il y a la princesse de Grolingen, il y a la petite fille, qui est une seule et même personne à deux âges différents. Il y a l'étranger et Walter qui sont une seule et même personne à deux âges différents. À l'époque où j'écrivais la pièce, on commençait à parler très fort et d'une façon, je dirais, assez inconvenante pour moi, de vivre sa vie sans but, sans idéal. Or, j'ai jugé que cette vie commençait trop tôt et finissait trop tard, ne pouvait entraîner que des catastrophes, au point que cette vie à laquelle on s'accroche avec tant de ferveur, Kazou, qui en était l'exemple de cette rage de vivre, avait complètement oublié cette vie à laquelle il s'attachait, au point que l'étranger est obligé de la lui rappeler pour amener chez lui certains éclairs de mémoire, très peu.
Oui, il y a une lueur, en effet, à un moment donné, oui. Mais en ce qui concerne la jeune fille, ce qui explique son suicide, c'est qu'elle constate justement avec effroi ce qu'elle risque de devenir. Si elle...
Ah, je ne crois pas qu'elle raisonne. Elle est entraînée. Elle est uniquement entraînée, comme le petit garçon qui, lui, est en réalité un petit garçon abandonné. On le dit dans le texte. Sa mère est toujours en voyage, il est élevé par les servantes, il n'a pas de foyer, il n'est accroché qu'à elle, il a peur qu'on les sépare parce qu'il en est menacé. Et il préfère mourir, il l'entraîne. Elle y est poussée aussi par tout son entourage, absolument inconscient du drame qui les occupe.
Et est-ce que la pièce a été jouée telle que vous l'aviez écrite?
Exactement.
Vous n'avez apporté aucun changement?
Aucun changement. Je n'apporte jamais de changement à la pièce, j'en suis incapable. Une fois qu'elles sont terminées, elles ne m'appartiennent plus.
Long silence. Marie-Henriette de la baie regarde au dehors. Des voix près de la maison. Vite, vite, plus vite! Elle revient s'asseoir et rêve les coudes aux genoux. Long silence. D'autres voix.
Une, encore une! Elle tombe, toutes les étoiles dans la mer! Viens, viens ici.
Marie-Henriette tressaille, se dresse, écoute et murmure.
Non, non, non.
Les voix s'éloignent. Viens, viens. Silence. Marie-Henriette, douce et suppliante, d'une voix qui chantonne et sous laquelle on entend une légère nuance d'affection.
Non,
non, Walter, ne m'appelle plus.
Oublie-moi, rien qu'un soir, je te le demande.
J'ai des larmes, tu le vois. Elle proteste doucement.
Non, j'ai sommeil, mais pas jusqu'à mourir. Je préfère dormir dans ma chambre aujourd'hui.
Là, il y a des fleurs sur les murs. Qui me regardent de leurs petits yeux. Elle imite la voix grave de Walter. Oh, moi, j'en aurais peur. Des voix au dehors.
Viens, viens, au bassin, tu viens?
Marie-Henriette, souriante, aimable, dors aussi. Si ta fenêtre est ouverte, tu te réveilleras demain, les joues fraîches. Plus bas. Tu veux entendre une histoire avant de t'endormir? À moi, déjà grande, on en racontait une. Elle imite la voix impérieuse de Walter.
Mourir avec moi, tu dois. Celle-ci, Walter.
Elle déclame avec cadence et monotonie comme une leçon apprise. Les arbres sans racines se nourrissaient de ciel, et portés dans l'air par leurs fruits légers, ils allaient, de royaume en royaume, inventer des paysages. Silence, Walter! Les rivières, afin de connaître toutes les choses, changeaient chaque jour de chemin. Ce sont les mots, je me rappelle. Et comme leurs eaux avaient de la mémoire, rien qu'à les regarder couler dans le gazon, tu dors? On apprenait toutes les merveilles du monde. Elle répète les paroles de Walter d'une voix grave. « Pourquoi ne veux-tu pas mourir avec moi ?» Et elle répond vite, dans un souffle, « Tais-toi, ferme tes yeux !» Elle déclame avec un désespoir morne, « La petite princesse traversait des ciels aussi verts que les champs du mois de mai. Elle retroussait sa robe pour ne pas la déchirer aux clôtures d'étoiles. Dors, dors, dors bien. Et la nuit, elle traversait pieds nus, de lune en lune, la voie lactée. » Elle imite encore la voix de Walter. « Je t'attends. Tu viendras ?» Elle a un cri de reproche, douloureux. « Tu n'es pas endormi, méchant garçon !» Elle fond en larmes, silence. Et voici que s'élève au dehors une musique nerveuse et nostalgique qui paraît proche ou lointaine selon le vent qui entre par bouffées dans la maison. Des voix hautes au dehors.
Le navire, à l'estacade, vite, vite! Agitez vos mouchoirs, adieu! Le drapeau flotte, oh, il va!
On entend la plainte prolongée de la sirène, les voix s'éloignent. Il y aura du brouillard de chaleur et des éclairs. Marie-Henriette, sur le ton élevé des voix qu'elle vient d'entendre. Mon Dieu, quel malheur! Comment la sortir de l'eau? Avec ce crochet, vous la déchirerez. Mais on ne saigne plus. Est-elle mouillée? Et si gonflée qu'elle a l'air de rire? Quelqu'un la reconnaît? Oui, oui, la petite pierre de sa bague. Oh, elle a beaucoup changé. Est-ce ma faute? Il n'en a plus voulu. Elle appelle assez haut.
Marie-Henriette!
Le son de sa voix la réveille brusquement. Elle s'était prise à son jeu. Elle se dresse, regarde autour d'elle avec inquiétude et murmure. Au secours! Au secours! Maman! Maman! Madame Mercenier entre. Marie-Henriette s'élance vers elle avec un cri de délivrance.
Les gestes des personnages, même leur déplacement dans le décor, sont assez précisément indiqués. Mais pas comme dans beaucoup de pièces, où, par exemple, la biche fait toujours ça. Il indique très précisément la place des personnages sur le plateau, par exemple. Crommelinck ne fait pas ça, mais simplement ces indications font partie du spectacle.
Oui, pensez à vos rêves. Vous essayez de resituer la disposition des personnages dans l'un de vos rêves. Eh bien, vous vous apercevrez que étrangement, il y a une sorte de discontinuité. Les personnages sont à une place, et puis dans une certaine position qui est frappante, vous pouvez décrire ce moment-là. Puis vous pouvez décrire un moment un peu ultérieur, où ces personnages se sont déplacés, ils sont dans un autre rapport, ils sont tout à coup tout proches l'un de l'autre, et ils semblent se parler. Mais ce qui s'est passé entre les deux, vous ne le savez plus. Eh bien, je trouve que dans les grandes pièces dramatiques, c'est-à-dire celles où le réel est toujours absorbé en même temps par le rêve, par le songe, ça se passe un peu comme ça. Les indications sont donc à la fois extrêmement précises et extrêmement floues. Et au fond, le travail du metteur en scène, c'est de trouver l'enchaînement, c'est de trouver ce qui se passe dans les intervalles de la vision ou des visions, plutôt, qui constituent la pièce.
RTF, 19 mai 1947, la crise actuelle du théâtre ne provient-elle pas des excès mêmes de la mise en scène? Un débat en forme de procès orchestré par Paul Guimard.
Monsieur Fernand Crommelinck, voulez-vous poser des questions à Madame
Dussam? Vous avez fait, Madame, le portrait du bon metteur en scène, mais en le faisant, vous avez fait en réalité le portrait du bon auteur. car un auteur doit être à la fois son propre metteur en scène et ses acteurs. Quand il conçoit, quand il écrit sa pièce, quand il la développe, il doit savoir exactement la dose de texte qu'il faut pour un passage de droite à gauche, de gauche à droite de la scène. Il doit savoir exactement où s'assoira l'acteur, où il se levera. Il doit en subir les réactions. Et si nous avons tant de metteurs en scène, bons ou mauvais, c'est que nous avons très peu de bons auteurs dramatiques.
Mais c'est que justement, la place où doit s'asseoir ou se lever l'acteur, la passade, mais tout cela est profondément accessoire, c'est qu'en fonction de ce que l'acteur va sentir en vivant son personnage, la passade est elle aussi une chose servante et accessoire. Il y a 10 manières de mettre en scène la même scène, suivant la façon dont on va essayer de la faire vivre. C'est aussi très accessoire. Vous voyez, vous-même, vous êtes victime de cet envahissement de la plastique par rapport à la vie actée.
Non, je refuse formellement, justement...
Bon, pardon de parler ainsi à un accusateur public, d'ailleurs.
Non, je regrette infiniment.
Je
ne l'accuse pas du tout. Je ne défends pas la plastique, je l'accuse au contraire. Mais je prétends que l'auteur, d'abord, doit sentir avant que l'acteur sente. Et en vérité, le véritable metteur en scène est un chef d'orchestre.
D'accord.
Vous ne nierez pas la nécessité absolue en musique du chef d'orchestre. Vous ne pouvez pas le nier au théâtre non plus.
Mais
il faut un chef d'orchestre qu'on appelle le metteur en scène, mais il doit au préalable être l'auteur. L'auteur doit être un admirable acteur. Je vous prie de croire que Shakespeare, que nous n'avons pas vu jouer, était un très grand acteur,
et Molière aussi. Vous ravissez mon cœur de fille de Molière, mon cher maître.
Je vous en prie, mais je dois vous rappeler qu'il ne vous appartient pas de rendre le jugement, tout au moins pas encore. Avez-vous d'autres questions, monsieur Cromlin?
Pas pour l'instant.
Comme Fernand Cromlin, qui était à la fois comédien, metteur en scène et auteur dramatique, il savait exactement ce qu'il voulait.
Florent Cromlin, peintre, neveu de Fernand Cromlin.
Alors très souvent, il arrivait au théâtre après une ou deux semaines de répétition, et il venait parce qu'on l'invitait, on lui demandait de venir donner son avis, parce que son avis était très important, et il arrivait au théâtre, il allait très discrètement, il s'asseyait au 20e rang, il était dans le noir, personne ne le voyait, on ne savait pas qu'il était là, et puis tout à coup, on entendait un éclat de voix en disant « Mais enfin, c'est très mauvais !» Et puis il bondissait sur le plateau, et à ce moment-là, il réunissait tout le monde en disant « Enfin, avez-vous lu ce texte? Que se passe-t-il » Et ça se passait parfois, mais deux jours avant la première, ou la veille de la première, alors c'était l'affolement général, il fallait tout revoir. Et bien, la première était annoncée, il ne s'agit bien entendu jamais de retarder cette date fatidique, et alors c'était, les répétitions toute la nuit, ininterrompues, pour tout revoir, mais il avait absolument raison. Et c'était grâce à cela qu'il y avait un succès.
Fernand Cromlin lit Fernand Cromlin, un document RTF.
Astre, foyer d'intelligence sans parole, pensent entre eux, et l'espace s'ouvre au silence que composent leurs cœurs nombreux. Astre, semblables aux micelles de vos cellules prisonniers, l'esprit est premier et dernier. Change l'ordre des étincelles. Feu sur les routes idéales entre mille miroirs volants, cercles, hélices, ellipses, spirales, leurs courbes sustentent l'élan. Jeux à l'infini compensés, ineffables chorégraphies qui toute musique défie. Chiffres et signes balancés au crible. Il rayonne au travers, s'empreint de ses propres images. Et l'éther constellé propage le verbe inscrit de l'univers. Parcouru de pareils messages, corps humain, cosmos inversé, déjà tes astres ont pensé, dont ta voix traduit le langage.
Est-ce qu'il a connu le problème linguistique que vit actuellement la Belgique?
Oui, il l'a peut-être connu, mais...
Albert Cromlin, peintre, frère de Fernand Cromlin.
Vous savez, nous sommes de mère française, et mon frère est né à Paris. Alors, en fait, lui, il se considérait comme... il avait beaucoup de plaisir à être en Belgique, et surtout au bord de la mer, en Belgique, à la mer du Nord. Il y allait souvent passer ses vacances. Mais en fait, lui-même se considérait comme beaucoup plus comme français que comme belge.
Oui, ce qui est étonnant, parce que son œuvre parlait français, considérée comme reflétant un peu une réalité, un paysage flamand.
Mais oui, mais ça, il le contestait. Il ne le trouvait pas. D'ailleurs, il avait trouvé cette idée de mettre de nos jours en Flandre dans ses pièces, mais ça peut très bien se passer n'importe où ailleurs.
Non, il aimait beaucoup la Belgique, mais en fait, lui-même a presque toujours vécu en France. Il y a fait ses études quand il était enfant, il y est né, et puis après ça, il y a presque toujours vécu, et il n'a vécu vraiment en Belgique que pendant ces deux dernières guerres.
Mais pourtant, par exemple, si on pense aux amants puérils, ça ne pourrait pas se passer ailleurs qu'à Ostende.
Mais oui, mais ça c'est parce que justement, il y avait passé des vacances, et en plus de ça, quand il avait, à peine à l'époque de son mariage, en 1908, il a été là au Carillon, à Ostende, qui était un journal ostendais, où il a fait la saison, en réalité, de ce journal, en écrivant chaque jour un papier sur la saison d'Ostende et ce qui se passait, et ce qui s'y passait. Il aimait beaucoup la mer du Nord, c'était une chose qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup la Belgique, il aimait beaucoup la mer du Nord, surtout la Flandre. Je dirais que là, s'il avait été belge, je dirais un flamand d'expression française, ce qu'on dit maintenant, enfin, dans le jargon actuel politique, il aurait été un flamand francophone. Enfin. Mais il ne se sentait pas du tout, d'ailleurs, il se sentait français.
Donc lui se considérait comme français, il n'avait pourtant pas la nationalité française.
Non, mais on a voulu des amis français voulaient à toute force, d'ailleurs, qu'il se fasse naturaliser. Et il répondait à ça, non, je ne le peux pas, je suis internationaliste, je ne vois pas un internationaliste faire naturaliser.
Il est né à Montmartre.
Jeannine Moulin, écrivain.
Il l'a décrit, d'ailleurs il a consacré un livre à Utrillo, et il commence par dire « Montmartre où je suis né ». Il a vécu son enfance dans son atmosphère de Paris, dans cette atmosphère de Paris, il a été à l'école à Paris, surtout dans les premières classes. Et puis, toute sa famille est rentrée à Bruxelles. On peut dire que la vie de Crommelinck est une série de parcours entre Bruxelles et Paris. Il est parti une fois pour Paris, et puis encore une seconde fois, déjà quand il était tout jeune, une fois quand il était adolescent. Il est parti pour gagner sa vie, il a rencontré là de grands acteurs, de grands écrivains, il a essayé déjà de prendre des contacts. Mais alors, il y a eu cette interruption de 4 ans de guerre, où il a bien dû rester en Belgique au moment de la guerre 14-18. Il a d'abord voulu s'engager, puis comme il n'y avait rien à faire, il ne pouvait pas s'engager. Il a créé une troupe théâtrale qu'il a intitulée le Théâtre Volant. Et sa grande idée, donc Théâtre Volant, parce qu'on allait dans toutes les salles, il n'avait pas une salle fixe où il allait toujours, il allait d'une salle à l'autre, et il avait tout fait lui-même en famille, sa femme jouait, lui jouait.
Crommelinck était d'une famille d'acteurs, son père était acteur.
Son père était acteur, et c'est son père qui avait, comment dirais-je, qui l'avait entraîné à aimer les poètes aussi, il lui faisait réciter du Victor Hugo quand il était gosse, et puis il a joué des rôles, même paraît-il, plus importants qu'on ne croyait, il a assez bien joué. Et puis Crommelinck avait un oncle qui s'appelait comme lui, Fernand. Fernand Crommelinck, donc le frère de son père, avait joué principalement dans le théâtre comique. Donc il est d'une famille d'acteurs. Et alors, quand il a fait le théâtre volant, quand il a créé le théâtre volant dont il était directeur, il a tout fait lui-même. Il a demandé à des amis de faire les décors, il a demandé à des gens de sa famille de jouer. Son frère, qui était encore jeune à l'époque, a également joué, surtout qu'il y avait des représentations pour enfants aussi dans ce théâtre. Donc ça a été une chose très intéressante, ce théâtre volant, parce que lui, il y a gagné, il a appris le théâtre d'une manière pratique. Et voilà que la guerre fini, tout de suite, en 18, il part pour Paris. Et le Cocu magnifique était une pièce qu'il portait en lui déjà depuis longtemps. Son frère me dit que c'était déjà depuis 1916 qu'il y pensait. Alors, il est allé là-bas, il a habité un petit temps à l'hôtel, puis il est allé s'installer chez Leveraren, qui étaient ses amis. Et il a habité là pendant très longtemps. Et c'est là qu'il a fini, d'ailleurs, le Cocu magnifique. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que, disons, jusqu'en 1939, la vie de Crommelinck est une série d'allées et venues, Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles. Et que sa vie, en fait, se confond très fort avec son œuvre. C'est pas un homme qui a fait des grands voyages, des grands déplacements. C'était un homme qui aimait vivre d'abord en famille. et qui aimait écrire, et je crois que tout le, il aimait faire du sport aussi, il aimait le cyclisme, il aimait la natation, mais on n'a pas grand chose à raconter. Son histoire de sa vie, c'est l'histoire de son théâtre, sauf qu'à certains moments ça a été un peu l'histoire du cinéma, où il a vu un moyen de gagner sa vie.
Oui, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes d'argent. Ça aussi, c'est un héritage de famille, je crois.
Oui, oui,
la vie de bohème.
Quand on fait son métier, justement, à ne pas vouloir signer des choses qu'on n'aime pas, à vouloir vraiment livrer le meilleur de soi-même. Et quand on est comme Crommelin et qu'on ne peut pas s'adapter, on ne voyait pas Crommelin comme un employé. Il avait un caractère difficile, il ne se serait jamais plié à rien. Alors, il a évidemment écopé dans la mesure même où il ne pouvait pas s'adapter à une certaine façon de vivre. Il était d'une indépendance tout à fait fougueuse, qui faisait que souvent, il s'était même bagarré en famille avec son père, qui était d'ailleurs comme lui. Mais c'était un homme pas tellement facile à vivre. Seulement, il croyait, il avait foi en ce qu'il faisait. Et il a toujours vécu comme il a entendu, seulement, évidemment, ça se paie. Et puis, quand il avait de l'argent, il était tellement généreux qu'il invitait tous les amis. Il préférait dépenser son argent que le garder. Alors, c'est sa façon de vivre, on ne peut pas la discuter.
Très jeune, nous sommes en 1904 et Crommelin a 18 ans. Il part à Paris contre le gré de son père et pour vivre, il va faire tous les métiers. Le jour, écrit Jeannine Moulin, il travaille comme typographe minerviste ou emballeur et gagne sa subsistance. La nuit, se nourrissant d'un quignon de pain et se réchauffant à grand-peine sous une couverture, il dévore ardemment les classiques de la poésie, du roman et du théâtre. Sa fougue et son appétit de savoir sont alors ses seules richesses. Cette existence de misère et de labeur enthousiaste forma le caractère et l'esprit d'un des écrivains les plus cultivés de son temps. De cette époque, il garda également l'habitude, qu'il conserva toute sa vie, de travailler la nuit. Beaucoup plus tard, des années plus tard, dans les années 30, 40, alors qu'il est un écrivain de théâtre célèbre, un des plus célèbres de son époque, il va trouver dans le cinéma un moyen de gagner de l'argent. Il va collaborer au scénario de plusieurs films, mais naturellement, Crommelin n'était pas un auteur de cinéma. Et Henri Storck, qu'il a connu à cette époque, qui a même travaillé avec lui sur un scénario qui n'a jamais vu le jour pendant la guerre, Henri Storck raconte dans quelles circonstances il l'a rencontré. C'était au moment du tournage d'un film, je crois, Henri Storck.
Il s'agissait des aventures du roi Pozzol. Et je me rappelle, encore une fois, là, Crommelin a travaillé à ce scénario. Je ne sais pas s'il a signé, si son nom est au générique, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le film était absolument, quand il était terminé, absolument charmant, et que c'était le genre de travail qui amusait beaucoup Crommelin, parce que Crommelin était toujours un pécunieux, et il menait la grande vie plutôt, il menait une vie de... Il me disait toujours, je mène une vie de millionnaire au jour le jour. Il aimait la bonne chair, il aimait bien manger, il aimait une vie de grand seigneur. Et déjà à Paris, enfin, et surtout après, quand je l'ai connu plus intimement, il me disait des choses très amusantes. Il me disait, voilà, moi j'ai toujours besoin d'argent, et parce que j'ai une famille, c'est vrai, il avait une famille, il avait 3 enfants à ce moment-là, ici à Bruxelles. Et je sais qu'il faut plus de 2 ans à un producteur pour monter une affaire de cinéma. C'est vrai, avant d'avoir réuni tous les capitaux, d'avoir engagé les acteurs, d'avoir vendu les droits de distribution, ce qui fait que je ne vends mes droits que pour 2 ans. Et j'arrive toujours au moment, après 2 ans, je retourne chez le producteur et je lui dis, ou bien vous me rachetez les droits, ou bien je les vends ailleurs. Alors qu'en général, on vend ses droits pour 5, 10 ou 15 ans, quand on vend les droits d'un scénario. Mais enfin, la pièce était tellement célèbre que tous les producteurs, attirés par ce titre surtout, beaucoup plus que par le contenu de la pièce ou par le talent de Crommelin, mais à ce moment-là, les producteurs de films pensaient qu'un titre comme Le Cocu Magnifique attirerait les foules. Et donc, on lui courait après pour acheter ses droits. Et il vivait de ça, de la revente perpétuelle de ses droits du Cocu Magnifique.
Est-ce que pour vous, c'était vraiment un homme de cinéma ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'était un homme de théâtre, avant tout. Et à partir du moment où je l'ai connu, c'est-à-dire où j'ai beaucoup travaillé avec lui pendant la guerre, donc, en 1941, il me disait, il était tellement consciencieux, tellement exigeant vis-à-vis de lui-même, il disait, j'ai 5 pièces, et qui ne sont pas terminées, mais je ne les terminerai que si je peux en faire des pièces dont la valeur égale celle que j'ai déjà publiée et fait jouer. Et je crois que ces 5 pièces, il ne les a jamais fait jouer.
Archive de la radiodiffusion française, un enregistrement du 11 avril 1948.
Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente Le Cocu Magnifique, farce de Fernand Crommelinck, réalisation de Léon Rupt. Bruno sera Georges Marchal, Petrus Robert Moncade, le bourgmestre Jean Demerson, Estrougo Edmond Beauchamp, le bouvier Jean-Jacques Dru, le comte Roger Weber, celui d'Ostkerk Michel André, le mari de Florence Jean Topard. Josette Day interprète le rôle de Stella. Berthe Bovy, la nourrice, Simone Gauthier, Cornélie, Yvonne Cressac, Florence. Avec Roger Bontemps, Jean Muselli et France Asselin. Bruitage, Pierre Léonin, prise de son Jean Jouve, assisté de Guy Nolibé. Celle qui voit est Lily Sioux, écoutez-la.
L'intérieur d'un ancien moulin à eau, transformé en maison d'habitation. Vaste et haute pièce aux murs blanchis, largement éclairée par 2 fenêtres, l'une au rez-de-chaussée, l'autre à hauteur du premier étage. La première s'ouvre sur un jardin fleuri au bord de la route. La seconde en plein ciel bleu. On accède à celle-ci par un escalier de bois, une galerie. Toutes les boiseries, portes, cadres des fenêtres, escaliers et galeries sont d'un joli vert campagnard un peu laiteux. Les meubles, armoires, tables, pupitres, chaises de bois sont recouverts d'une peinture jaune paille et vernie. Stella est agenouillée devant la cage du serin et les pots de géranium posés à terre près de la fenêtre.
Et encore, si je n'étais pas là, petit géranium, que ferais-tu? Attendrais-tu la pluie sans mourir? Et l'ombre à midi, hein? Et le soleil derrière les rideaux? Et toi, petit, tu as soif aussi. Chanterais-tu si je n'étais pas là? Qui te donne des graines et des feuilles de salade et du sucre mouillé? Oui, oui, bas des ailes. Tu t'envolerais dans le bois, dis-tu. Ah, mais tu ne connais pas les choses bonnes à manger. Tu n'y vivrais pas une journée, voilà-tu. Tu es née pour être en cage, cette plante mise en pot, et moi... Moi, bienheureuse, je suis née pour aimer Bruno. Ah, le bon Dieu a-t-il voulu cela? Toi, tu as des fleurs, celui-ci chante, et moi, bienheureuse, j'aime Bruno. Si tu étais libre dans un jardin, toi sur un arbre et moi sans amour, qui nous conduirait? Oui, oui, tchip, tchip. Rien, que du tonnerre. À quoi rêves-tu dans tes plumes? Les plantes rêvent aussi parfois quand les nuits sont claires. Non. C'est au crépuscule plutôt. Oh, moi j'ai oublié mon rêve. Je ne raconterai rien à Bruno lorsqu'il reviendra. J'ai dormi seule au milieu du lit frais et j'ai oublié le rêve que je fis. Que dira mon bien-aimé?
Bonjour Stella. J'ai rencontré ton homme ce matin.
Cornélie, que dis-tu? Tu l'as vu? Où l'as-tu vu?
À ma porte, Junior.
Ce matin.
Remets en charrette avec ma
sœur. Et tu l'as vu, bonjour Cornélie. Et tu l'as vu, là, debout. Était-il gay? T'a-t-il parlé de moi? Mémé, mémé! Alors?
J'ai arrêté le cheval, il est venu s'appuyer au brancard.
Mémé, mémé!
Oh, il avait marché longtemps, il avait chaud. Oh. Il a ôté sa cassière.
Attends une minute. Mémé, en voici une qui a rencontré Bruno ce matin à la porte du Nord. N'est-ce pas, Cornélie? Elle l'a vu. Où est ta sœur? Vu, Bruno. Il est venu s'appuyer au brancard, il avait chaud, il a ôté sa casquette. Dis-le, Cornélie. Et alors?
Il a repris son chemin et nous le nôtre.
Mais avant, qu'a-t-il dit?
On lui a parlé du temps, je crois.
Oh, c'est tout?
Je ne sais plus.
Oh, nourrice, elle n'a pas retenu les belles paroles de Bruno. Est-ce possible?
Doucement. Veux-tu que je pleure aussi? Bruno est en route, petite esclave. Bruno nous sera rendu.
Hélas, encore 3 heures à l'attendre.
Doucement, il nous aimera tellement. Ne sois pas jalouse. Il nous contera son long voyage et des événements. Quels arbres sont en fleurs, ce qu'on espère dans les villages et tout. Et qu'il a cru nous faire à chaque pas. Et tout, et tout.
Enfin, mère de Dieu, garçon.
on leur a mangé la cervelle.
Oh, Cornélie, laisse-moi t'embrasser. Appelle ta sœur à présent. Peut-être elle en dira plus que toi.
Florent,
Le théâtre de Cromlech est essentiellement, il l'a dit d'ailleurs, un théâtre qui saisit l'individu en état de crise.
Jeannine Moulin, écrivain.
C'est son point de départ. C'est ça qui doit être montré par le dramaturge, selon lui. Alors, il a commencé, pas tout de suite, par faire un théâtre de paroxysme. Il a fait un théâtre de caricature. Il était très influencé par les caricatures de Goya. Et il a pensé que pour montrer vraiment les caractères des êtres, il fallait leur imprimer cette espèce de grimace qui venait de leurs passions, de leurs excès. Ça a commencé ainsi, ça a monté, jusqu'au moment où il a voulu montrer les individus, le cocu, l'avare ou quoi, arriver vraiment à un état où son visage se décompose et où il est à la fois tragique et comique. Cromlech, c'est avant tout le théâtre du tragicomique, mais un tragicomique qui est l'expression même du paroxysme. Par exemple, son avare, Hormidas, quand on le voit à un moment donné, il exulte devant l'argent et puis tout de suite après, il peut montrer son désespoir, mais presque en même temps. Vous savez, d'autres écrivains comme Shakespeare avaient montré le tragique et puis le comique, mais pas en même temps.
Et Molière, alors, Molière non plus, d'ailleurs. On a souvent comparé ces caractères de Cromlech au théâtre de Molière.
Oui, mais oui, là, Molière, il lui a emprunté d'autres choses, mais il a été beaucoup plus influencé par Shakespeare. Mais la nouveauté de ce tragicomique de Cromlech, c'est qu'il est simultané. Et il prend vraiment la forme d'un masque sur le visage du passionné. Par exemple, s'il décrit l'avare, s'il décrit le cocu, s'il décrit l'envie jalouse, s'il décrit la méchanceté à l'état pur, eh bien, il imprime une sorte de masque qui n'est pas un vrai masque, parce qu'il y a des masques dans le théâtre de Cromlech, mais des masques assez matériels, comme le masque qui est mis sur le visage de Stella, par exemple. Mais lui, son masque est un masque quasi invisible, le masque du tragique comique dénonciateur, qui fait voir l'individu arriver au bout de la crise qu'il nous a décrit au début. Et c'est ça son propos. Alors, c'est d'autant plus grave chez lui que il avait une intention de montrer le théâtre, disons, à la manière de Shakespeare, par exemple le jaloux. Othello ne lui paraissait pas du tout le jaloux à l'état pur. Lui, il voulait montrer le jaloux à l'état pur, parce que Othello, on lui parle du mouchoir de Desdémone, on lui fait peur, tandis que Bruno, du Cocu magnifique, il n'a aucune raison de se méfier de sa femme, il n'y a pas de raison. Alors ça, c'est la jalousie à l'état pur qui détruit l'individu, qui en fait une sorte de drogué de son propre défaut, de son propre péché. Et ça, ça a été la grande originalité de son théâtre. Parce que figurez-vous, à l'époque où on se trouvait, le théâtre, c'était encore Porto-Riche, c'était donné, c'était des pièces de Tristan Bernard qui étaient parfois bonnes, moins bonnes. Quand il est arrivé là dans un théâtre tout à fait un peu sclérosé, un peu 1900, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? Et alors, c'est là où je trouve que l'intelligence de Cromlech est visible, parce que tous les dramaturges ne sont pas nécessairement intelligents, mais lui, il a compris qu'on pouvait garder les thèmes, les grands thèmes classiques, et en même temps innover. L'idée d'Apollinaire, la tradition et l'invention, eh bien, il l'a appliquée dans son théâtre. Alors, c'est très curieux, parce que c'est un théâtre d'une conception très classique, beaucoup plus classique même que celui de Gelderod, à quoi il greffe un procédé, notamment ce tragicomique dénonciateur dont je vous parlais, et d'autres choses encore, et il en fait finalement quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense qu'on n'est plus jamais revenu au théâtre un peu sentimental et sirupeux de l'époque qui a précédé, on n'a plus fait des pièces à thèse, on n'a plus apprécié autant ce théâtre-là. Il a toujours existé, il a subsisté, mais les gens ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. En fait, la première représentation du Cocu magnifique a été une sorte de bataille d'Hernani. Je me souviens de certaines critiques qui ont été faites, des gens se sont retournés, ont dit « ça sent le chef-d'œuvre ». Tout le monde a eu dans la salle conscience qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, et en effet, cette pièce qui allait être jouée tant de fois dans le monde apportait un élément neuf, dont le premier, je crois, et le début peut-être d'un théâtre de la psychanalyse, comme nous l'avons aujourd'hui. Aussi, à mon avis, des thèmes qui n'avaient pas été mis en valeur jusqu'ici. Quand vous pensez, par exemple, dans « Chaud et froid », la petite bonne de Léona, eh bien, cette petite bonne est, a des sentiments pour sa patronne qui sont, disons, les mêmes que les bonnes de Genet. Or, c'est combien de temps avant Genet que ça arrive? Donc, on n'avait jamais jusque-là décrit un amour lesbien ou une chose de ce genre. Ça n'existait pas dans le théâtre avant lui. En plus de ça, il y a quelque chose d'assez extraordinaire chez lui. C'est, à mon avis, qu'il inaugure le théâtre de l'absurde. Parce que vraiment, dans plusieurs de ses pièces, ce sentiment de l'absurde apparaît.
Mais en 1920, comment ce Cocu magnifique, qui paraît avoir eu une si grande importance pour l'histoire du théâtre de l'après-guerre mondiale, comment ce Cocu magnifique a-t-il été accueilli? Parce qu'on a l'impression que les critiques ont été assez mitigées, finalement.
On ne l'a pas tout de suite compris à Paris. Une partie de la critique, et même des plus grands, des gens comme Antoine, comme Coppo, l'accueillait à bras ouverts, mais d'autres pas, parce que n'oubliez pas, il y avait d'abord cette langue poétique, mais tout de même par moments un peu rocailleuse, très abondante, très, très symbolique, qui heurtait un peu le cartésianisme français. Le cartésianisme français était profondément révolté par ce théâtre, qui était d'abord très hardi et très, qui ne prenait aucune précaution oratoire. Mais surtout, ce qui a paru insoutenable, c'est ce théâtre poétique. N'oubliez pas que depuis lors, nous avons eu le théâtre de Cocteau et de tant d'autres, mais à ce moment-là, un théâtre où tout était représenté symboliquement et poétiquement. Vous savez, on pourrait faire une anthologie avec des petits textes extraits des pièces de théâtre de Fernand Kremelec, qui sont des morceaux de poésie, poésie en prose parfois, mais toujours avec un rythme intense. C'est un théâtre essentiellement poétique. Alors déjà ça, c'était pas du tout le classicisme et le cartésianisme de l'époque. Et en plus de ça, il y avait là tout de même quelque chose d'étranger, une note étrangère par rapport à la France, une note nordique, plus que nordique, flamande. Et ça, on le lui a reproché à ce moment-là. Et Kremelec était furieux parce que sa formation était purement française, il était belge, ses ancêtres étaient certainement en partie d'origine flamande, seulement il avait beaucoup vécu en France, il était passionné de littérature française, pour lui Molière c'était un dieu, et voilà qu'on venait lui reprocher l'allure flamande de son théâtre. Alors évidemment, il a nié, il a dit « je suis plus français que vous tous, je suis né à Montmartre, j'ai fait mes études à Paris ». Et puis, Gelderoth s'est très fort étonné de ça, il a dit « mais enfin, pourquoi ne pas être flamand, si on vous qualifie de flamand ?» Et peu à peu, Fernand Kremelec a compris que tout le théâtre montant et toute la littérature montante d'expression française qui nous venait de Belgique, était une littérature à caractère particulier et que son charme, son exotisme provenait justement de ses origines nordiques. Par exemple, les amants puériles, on peut pas imaginer une atmosphère pareille si elle n'est pas baignée par la mer du Nord, inventée dans le sillage de la mer du Nord. C'est vraiment quelque chose qui ne peut avoir été écrit que par quelqu'un qui a beaucoup vécu au bord de la mer du Nord, ce qui a été le cas. Il en a d'ailleurs conçu le sujet à Ostende, ainsi que je l'ai dit dans mon livre. Eh bien voilà, un beau jour, il a compris que tout ce théâtre belge et toute cette littérature, Suzanne Lillard, Françoise Malé-Joris, était justement, précisément, conditionnée par notre climat, et que c'est ça qui lui donnait toute sa saveur.
Mais il a compris 30 ans plus tard.
Oui, peut-être, vers les années 50, vous avez tout à fait raison. Il l'a dit à un moment donné, lui-même à la radio, et il a même accepté de faire, je crois que c'est à l'ORTF, un exposé sur le théâtre, à la fois d'expression française et flamande, de Belgique. Et finalement, il a dit à peu près ce que je viens de vous dire. Il a compris que c'était ça, toute la saveur des choses. Et il a cessé de se déclarer français avant tout. Il a senti qu'il avait droit à l'enrichissement des deux communautés.
Sous le haut patronage de M. René Coty, président de la République, la radiodiffusion télévision française présente... battement de cœur de Paris. Une émission d'André-Paul Antoine et Françoise Arnay. Émission réalisée avec le concours des ambassades et des radiodiffusions de 52 nations étrangères, ainsi que de la direction du service des échanges internationaux de la radiodiffusion télévision française. Collaboration artistique, Michel Godard.
Il serait ridicule de présenter Ferland Crommelin, auteur de tant d'ouvrages et entre autres du célèbre Cocu Magnifique qui remporte toujours un égal succès à notre comédie française. Monsieur Crommelin, vous avez bien voulu définir pour nous l'art dramatique belge. Quel problème pose l'utilisation des langues françaises et flamandes dans le théâtre belge ?
L'honneur qui m'est fait de parler ici du théâtre belge, c'est-à-dire du théâtre dont les auteurs sont de nationalité belge, m'incline à mettre aussitôt les choses au point. Si l'on parle de littérature, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de langue belge, mais simplement deux langues, la flamande et la française. Il existe donc un théâtre flamand et un théâtre français. Les nommerait-on toutes deux du théâtre belge? Une pièce comme le mariage de Mlle Beulemans de Fonson et Wichler, où les parlers du petit peuple et flamand et wallon se mêlent en un patois singulier, à la suite de son immense succès populaire, a donné à croire au public français que les personnages de la comédie s'exprimaient dans la langue belge. Et de là, à la réalité d'un théâtre typiquement belge, il n'y avait qu'un pas. Il n'est venu à l'idée de personne d'appeler Jean-Jacques Rousseau un écrivain suisse. Le théâtre en Belgique est uniment ou français ou flamand. Et encore faut-il constater que de nombreux écrivains natifs des Flandres se sont exprimés en français. N'oublions pas, en passant, que le mouvement symboliste est venu presque entièrement des Flandres belges, avec Georges Rodenbach, Maurice Maeterlinck, Van Lerberg, dont le Pan fut créé par Luniepo et le rôle de Paniska joué par Colette, Émile Verhaeren et son cloître monté aux Français. Ces citations nous amènent à nous demander si ces ouvrages, hors de l'influence française, bien qu'écrits dans cette langue, sont de caractère autochtone, c'est-à-dire d'inspiration nordique, disons flamande, sans aucun doute. Et leur originalité, pensons-nous, tient moins au tempérament de leurs auteurs qu'à une obéissance volontaire à la tradition de la grande école picturale des Flandres.
Aujourd'hui, dans le contexte du problème linguistique que traverse la Belgique, chaque communauté wallonne ou flamande cherche à compter les siens. Alors, à l'automne 1979, lors de l'inauguration à Paris du Centre culturel de la communauté française de Belgique, certains se sont étonnés de ne pas trouver sur la liste, sur l'inventaire des richesses culturelles francophones de la Belgique, de ne pas trouver donc le nom de Fernand Crommelinck. Pourtant, ce nom de Crommelinck est toujours porté en Belgique, puisque Albert Crommelinck, qui vit toujours, le frère de Fernand Crommelinck, donc, et son neveu également, qui est peintre. Alors, aujourd'hui, par quelle communauté ce nom de Crommelinck est-il revendiqué et l'œuvre de Fernand Crommelinck par la même occasion, Florent Crommelinck?
Eh bien, nous ne sommes revendiqués strictement par personne, ni par les Wallons, ni par les Flamands. Bien entendu, nous avons un nom à consonance flamande. En tout cas, Fernand Crommelinck lui-même a toujours affirmé qu'il était Picard. Et il y a, en Picardie, il y a du côté de Douai et de Saint-Quentin également, il y a encore des Crommelinck ou Crommelin ou Crommelinck écrit avec I au lieu d'Y comme il était écrit parfois. Mais enfin, il y a également des Crommelinck en Hollande, mais qui sont probablement des Huguenots qui ont émigré. Mais en fait, il n'y a pas, ou presque pas, de Crommelinck en Belgique. Ce n'est pas un nom courant en Belgique. Alors, cette appartenance flamande, il est très difficile qu'on... Bon, bien entendu, les Flamands aiment toujours revendiquer Elle est wallon aussi, bien entendu. Enfin, dès qu'il y a une gloire nationale, elle veut être revendiquée par l'une ou l'autre communauté, ce qui est bien naturel. Mais en ce qui concerne le problème de la famille Crommelin, eh bien, je crois que nous ne sommes revendiqués par personne.
La scène la plus célèbre du Cocu Magnifique, enregistrée à la Radiodiffusion française le 11 avril 1948 avec Georges Marchal, Bruno et Josette Day, Stella.
Stella ! Stella ! Viens vite, notre petite Stella. Stella !
Oh, Petrus, c'est toi !
Bonjour, Stella.
Oh, il n'est pas tout en or.
Ah non.
Tu es capitaine pourtant.
Oui.
Bonjour, Petrus.
Mais embrassez-vous.
Ah, mais nous étions ennemis.
Oui, c'était plus facile. Viens, Stella.
Oui.
Hein, il n'a pas changé. Ah, ses yeux seulement ont pâli. Oui, c'est le large. Il a gardé son air sauvage.
Où sont tes bagages?
On les apportera ici tout à l'heure. Un fourgon me suit. Eh bien, Petrus, parle-moi d'elle. Ai-je menti? Stella est très belle. Et preste, et fringante, et légère. Stella, fais la révérence. Je t'en prie. Salut. Ah, trois pas vers la porte. Oui, reviens. Petrus, contemple-la. La tourne sur place.
Pourquoi?
Donne-moi la main. Tourne, tourne, valse. Petrus, n'est-ce pas une merveilleuse ballerine?
Oui.
Sa marche est une respiration tranquille. Elle laisse un sillage lumineux après elle. Elle se balance comme une bouée sur le flot. Ah, Petrus, mon cher Petrus. Oh, je t'ennuie, Petrus.
Tu l'aimes, mon fils.
Oh, oui, si tu savais. Écoute, Petrus, tu es mon ami. Ah, non, 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 je ne puis m'exprimer. Stella, mon bouquet, ma petite fée. Montre-lui ta jambe.
Oh,
oh, je t'en supplie, lève un peu ta jupe.
Oh, mais je n'oserais pas.
Petrus est ton cousin et mon ami. Je veux qu'il sache combien tu es belle. Oh, lève un peu ta jupe, mignonne, lève-la. Admire. Admire, Petrus. N'est-ce pas une corne d'abondance? La poussée d'un lys, la pureté des enfants. Connais ma chance.
Tu l'aimes, Bruno.
Oh. Écoute, Stella, ma petite nymphe. Jusqu'au-dessus du genou. Qu'il te découvre tel qu'on doit te rêver. Oh, Petrus, qu'en dis-tu? Claire comme la rosée, fraîche comme la lune entre les feuilles, et fine et flexible et berceuse.
Oh, mon ami.
Ton sein, ton petit sein, comme une perle gonflée.
Non.
Bruno, tu l'aimes trop.
Oh, je vous aime tous les deux. Qu'il dise s'il a vu sur les plages torrides un coquillage plus flatteur au regard et d'un dessin plus choisi. Ton sein, ton petit sein sans péché, ton petit sein si vite ému.
Oh, mon ami.
Ah, ai-je menti? Ai-je exagéré seulement d'un souffle? Parle, réponds-moi, mais regarde surtout, regarde.
Oh, mon ami.
Effectivement, en 1920, les critiques ont reproché à Fernand Crommelin que d'utiliser un langage trop poétique, mais à l'opposé, un certain nombre d'autres critiques, quelquefois les mêmes, lui ont reproché sa crudité de langage et quelquefois des situations qu'il jugeait scabreuses et scandaleuses, il faut dire, du point de vue des mœurs.
Oui, et encore qu'en France, on a été assez indulgent. C'est en Italie que le Cocu Magnifique a fait le plus de scandale. Vous comprenez, à cette époque-là, c'était pas l'époque ni des bikinis, ni des monikinis. Or, vous connaissez la scène où Bruno dévoile un sein de Stella et le montre au marin Petrus. À cette époque-là, ça a fait plutôt scandale. Il y a même des critiques de mauvaise foi qui ont dit que c'est pour ça que la pièce avait eu tant de succès et qu'on y était retourné, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel et que, précisément, Regina Camier n'était pas mal bâtie. Mais c'est évidemment absolument injuste, parce que la critique et le public qui a apprécié cette pièce était un public formé. Pour la bonne raison que le théâtre de Fernand Crommelin est un théâtre de l'intelligence. En réalité, un théâtre a deux dimensions. Vous pouvez être Monsieur Tout-le-Monde, voir cette pièce et goûter l'anecdote, rire en voyant le cocu ou le jaloux ou le serviteur ivre ou n'importe quoi. Il y a de quoi s'amuser pour des gens tout à fait simples. Mais dès que des gens intelligents voient ce théâtre, ils commencent à se poser des problèmes. Et ils se disent, ils se demandent si au point de vue psychologique c'est exact et en quoi c'est nouveau et si ça a déjà été fait ailleurs. C'est un théâtre, j'ai déjà remarqué, qui passionne les gens intelligents et où ils y trouvent une extraordinaire nourriture et même une nourriture spirituelle. Parce qu'en vérité, le théâtre de Crommelin est en même temps ce qu'on n'a jamais vu. Un théâtre moral, une morale, chose curieuse, parce que c'était un agnostique, une morale à consonance chrétienne, une morale du bien et du mal, mais qu'on n'aperçoit pas. Il est assez intelligent pour ne pas faire le moralisateur. C'est parce que ça ne se voit pas que c'est intéressant. Eh bien, il a osé dire tout ça.
Théâtre psychologique, théâtre poétique, théâtre moral, le théâtre de Fernand Crommelin, qui est aussi, on l'oublie parfois, un théâtre politique. Chaud et froid où l'idée de Monsieur Dom, qui fut créée en 1934, c'est-à-dire en pleine montée du fascisme, montre deux intrigues. D'une part, les amours de la belle Léona, la future veuve de Monsieur Dom, et d'autre part, les agissements des groupes domistes. De quoi s'agit-il? Eh bien, Monsieur Dom, un notable villageois dont la vie fut sans histoire et sans clarté aucune, se serait écrié au moment de mourir « J'ai une idée ». Alors autour de cette idée peut-être imaginaire, tout le village se mobilise. Des groupes domistes vont se former, vont défiler au pas cadencé en portant des brassards animés par cette idée qui n'existe probablement pas. L'allusion est transparente et pourtant l'écriture de Crommelin est telle que cette pièce pourrait être jouée dans une mise en scène, il est vrai, un peu moins explicite, pendant l'occupation, au nez à la barbe de l'occupant. En 1967, c'est Daniel Delorme qui jouait Léona.
Léona?
Oui. Eh bien?
Rien.
Quoi?
Ah, rien. Nulle part, ni argent, ni valeur.
Tu as tout visité, tout fouillé?
J'ai ausculté les murs, les plafonds, les parquets.
Oh! Mais c'est impossible.
Rien.
Toi, ne te désole pas. Il faut chercher, chercher, nous trouverons.
Oh, je ne me désole pas, nous partons.
Où? Quand? Comment? Avec quoi?
Je travaillerai. J'en ai l'habitude.
Tu travailleras. Pour moi? Pour nous deux. Un grand saut, je t'aime trop. Mais je ne t'en laisserai ni le temps, ni le courage. Ni la force. Prends patience.
Ah non, non, j'ai supporté trop longtemps que tu vives ici avec Monsieur Dom.
Trop longtemps. Il y a 14 jours que nous nous sommes vus pour la première fois. Et reconnu.
Reconnu, oui. Reconnu, tu l'as dit. Donc, il n'y a pas à compter par jour, mais par année, par siècle peut-être.
Oh, toi, toi, toi.
Oh, Léona, c'est vrai que je suis au premier regard que nous étions accordés, toi et moi. Avec un peu de mémoire, j'aurais dû retrouver ton nom.
Toi, toi, toi.
La couleur de tes yeux n'avait pas changé. Je savais sans parole que je t'avais quitté une heure avant, mais dans un autre monde.
Toi, toi, toi.
Léona, Léona, je savais que nos corps allaient se rejoindre aussitôt. Même malgré nous, ils ne s'étaient pas oubliés.
Non, toi. Une fois tu comptes par siècle, une autre fois par seconde. L'amour ne connaît pas de mesure. Aie patience. N'es-tu pas heureux?
Si.
Est-ce que je t'aime?
Oui.
Alors, tu n'as pas à être jaloux. Tu as visité la maison, tu sais que je ne partage ni son lit, ni sa chambre.
C'est trop que vous soyez voisins. Puisqu'il a le sang fluide, dis-tu, et qu'il dort d'un sommeil d'éléphant, ouvre-moi ta fenêtre cette nuit.
La longue journée où on se regarde ne te suffit pas.
Je veux ton sommeil aussi.
Tu l'auras. Mais pas ici. Qu'une indigestion l'éveille, qu'il nous surprenne.
Mais qu'importe, puisque tu dois partir.
Et je rougirais de me trouver déshabillée devant lui. Je n'ai jamais pris assez de précautions pour l'empêcher de savoir s'il avait voulu. Mais je n'ai jamais eu l'impudence de l'y obliger.
Savoir quoi?
Mais qu'il est mon mari, pas davantage. Est-ce que je t'aime?
Il n'avait pas d'engagement politique, mais cependant, on peut dire que c'était, si vous voulez, un homme de gauche, malgré tout.
Albert Crommelin, peintre, frère de Fernand Crommelin.
Il a même appartenu au Parti communiste au début. Et après ça, il s'en est désintéressé. C'était d'ailleurs le début du Parti communiste, un communisme qu'on a plus accepté par la suite. C'était l'époque de Trotsky, enfin, si vous voulez. Mais enfin, il était un homme de gauche. Il pensait d'ailleurs beaucoup au peuple pour même faire jouer ses pièces. C'est ainsi qu'il avait, par exemple, pendant la guerre 14-18, il avait monté un spectacle gratuit. Et il, ça, c'est une représentation qui avait eu un succès énorme. C'était beaucoup de gens qui étaient privés de tout pendant la guerre 14-18, qui n'avaient vraiment pas l'occasion ni la possibilité de pouvoir aller au spectacle et de dépenser leur argent à ça alors qu'ils n'avaient pas à manger. Eh bien, il y a eu une représentation du sculpteur de masques qu'il a joué, du reste lui-même avec sa femme, et qui a été un spectacle absolument extraordinaire parce que tout le public, après ce spectacle, s'est mis à crier « merci, merci, merci ». Enfin. Et il avait gardé ça comme idée, et d'ailleurs plus tard, il avait toujours eu l'idée de pouvoir créer un théâtre qui aurait été gratuit. Et puis il pensait d'ailleurs que c'était le meilleur public, n'est-ce pas? Il pensait que ses pièces étaient faites pour être jouées par le peuple. Et d'ailleurs, il citait toujours en exemple le succès qu'il avait eu en Russie, où le Cocu Magnifique a été joué pratiquement pendant 3 années, sans discontinuer, n'est-ce pas? Avec un énorme succès.
Il a été joué par Meyerhold, je crois.
Il a été joué par Meyerhold, oui, oui.
Fernand Crommelin, qui est un précurseur du théâtre populaire, interviewé le 2 mars 1937 au micro de l'Institut national de la radiodiffusion belge par Paul Lévy.
J'espère arriver à faire une formule de théâtre beaucoup plus populaire dans la tendance, c'est ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Il est absolument certain que depuis longtemps nous faisons du théâtre uniquement bourgeois. Mais aujourd'hui, le théâtre populaire se trouve devant le peuple, c'est-à-dire que le public est devenu le public populaire. Les classes disparaissent, la bourgeoisie n'est plus la seule élite. Le public tout entier s'intéresse au théâtre, comme du reste à la radio, comme du reste au cinéma. Nous sommes obligés de penser à ça.
Il faut décrire pour tout le monde.
J'ai pensé à réunir quelques auteurs et à leur demander de travailler dans une certaine tendance, c'est-à-dire dans la tendance du théâtre purement populaire, c'est-à-dire beaucoup plus large comme trait, d'un contact direct, avec une certaine violence d'expression, de façon à toucher toute la masse du public, qui a besoin aujourd'hui de venir au théâtre comme elle entend la radio et comme elle va au cinéma, qui sont des arts entièrement différents. Chacun peut apporter quelque chose de particulier au public. Et voilà à quoi je m'attelle en ce moment, c'est-à-dire que je suis en train personnellement d'écrire une pièce dans un sens entièrement comique, mais après large. Largement certi, destiné uniquement au public populaire, c'est-à-dire à tout le public.
C'est toute une rénovation du théâtre dans le fond que vous entreprenez là. C'est un travail extrêmement vaste.
Nous verrons.
C'est un théâtre sans date.
Florent Crommelinck.
C'est-à-dire que Fernand Crommelinck avait le souci de ne jamais avoir dans ses pièces la moindre anecdote qui puisse préciser une époque. C'est-à-dire que ce ton théâtre de toutes les époques pourrait être joué dans n'importe quel costume. D'ailleurs, je crois, au début de la guerre, au théâtre Héberto, Alice Cossea avait joué Chaud et froid, sous le nom de Léonard, en costume Renaissance. Il y a eu d'autres exemples, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi bien jouer le théâtre de Crommelinck au 19e, au 18e, ou même en science-fiction. Parce qu'il a très soigneusement éviter toute facilité telle que le téléphone, par exemple, qui fait tellement partie de tout le théâtre contemporain, pas précisément justement ce théâtre contemporain d'entre les deux guerres, cette facilité. On ne parle jamais de voiture, si ce n'est de voiture qui pourrait aussi être aussi bien à cheval qu'un moteur, on ne précise pas, on ne dit pas une automobile en tout cas. Donc, il n'y a vraiment aucune époque précise. Rien ne marque une époque. Et il a fait ça très soigneusement, de même qu'il a toujours respecté une unité de temps et de lieu. Enfin, son décor est toujours semblable. Il n'y a jamais de différents tableaux. C'est simplement des différences d'éclairage. Il y a une partie qui se passe la nuit, il y a une partie qui se passe le jour, une partie qui se passe le matin, mais c'est dans le même lieu. Il n'y a jamais de changement de décor chez Crommelinck, ce qui est aussi une très grande difficulté, mais auquel il tenait très fort. C'était très important pour lui d'éviter toutes ces facilités-là. C'est un théâtre classique, et il, comme vous me demandiez tout à l'heure si il parlait de son théâtre, mais quand il en parlait, il se considérait justement comme un auteur classique. Et il tenait beaucoup, beaucoup à cette définition. C'était très important pour lui, ce classicisme.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 mars 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.